Bonjour à toutes et à tous. Le mois dernier s'est tenu le traditionnel marché de Noël du lycée français de Sydney, le lycée Condorcet, et en marge de cet événement a été organisée une table ronde pour parler d'artisanat français et de sa place ici en Australie. Je vous propose tout de suite d'écouter cette table ronde. Elle est animée par ma collègue Richelle Harrison.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce panel de discussion sur le savoir-faire et l'artisanat français en Australie que nous organisons en marge du marché de Noël du lycée Condorcet, le lycée français de Sydney. Le Made in France et l'excellence de l'artisanat, nous avons ici de nombreux exemples de talents français qui ont su faire prospérer leur expertise ici en Australie. Certains sont d'ailleurs autour de cette table aujourd'hui, je vais vous les présenter dans quelques instants. Et nous avons également le plaisir d'avoir avec nous pour cette discussion l'ambassadeur de France en Australie. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, bienvenue.
Pour compléter ce panel, nous avons également la joie d'accueillir Élise Pioche-Balzac, fondatrice de Maison Balzac.
Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Tiffany Vidal, artiste peintre, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Quentin Zer, chef pâtissier, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Et Christophe Oppé, entrepreneur horloger, bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, chacun à sa spécialité, un parcours bien spécifique, mais ce qui vous rassemble, c'est que vous avez choisi de venir vous installer en Australie. Bienvenue à tous et entamons donc cette discussion. Alors tout d'abord, parlez-nous de votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené en Australie? Qui voudrait commencer?
Moi, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Mais en fait, je travaillais dans la mode à Paris jusqu'à mes 28 ans. J'étais chez Hermès, dans une société vénérable dans la capitale de France. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait vraiment que j'essaye de partir à l'aventure pour pousser mes limites et voir s'il y avait meilleur ailleurs. Et je ne voulais pas aller trop près. J'aurais pu choisir Londres ou New York, mais j'ai décidé d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire d'aller vers un point, si je vais au-delà de ce point, je reviens en France, en gros, et c'est Sydney. Donc, je suis venue ici quand j'ai eu 28 ans, avec un Working Holiday Visa, et je suis toujours là 20 ans plus tard.
Vous, Tiffany?
Donc, ma raison première, c'était un projet de famille, parce que mon mari était australien, et il avait d'ailleurs été ici à l'école française, et on a décidé, avec nos filles, de venir ici s'installer en Australie. Je voulais que mes filles grandissent dans un environnement anglo-saxon. Je pensais que ce serait plus bénéfique pour elles à l'avenir. Ouais.
Moi, c'est vraiment par hasard. En fait, je travaillais au Palais de Maurice à Paris avec un pâtissier très connu aujourd'hui qui s'appelle Cédric Drouet. Et en fait, j'avais travaillé 2 ans là-bas. J'avais une expérience de 7-8 ans en pâtisserie. J'avais atteint tous mes objectifs et je me suis dit, bon, j'ai une belle expérience, un petit peu d'argent de côté. Qu'est-ce que je pourrais faire pour grandir? Et un nouveau challenge, donc je parle pas du tout anglais, mais vraiment pas du tout. Donc ce serait bien de partir à l'étranger, et je suis parti le plus loin possible. Voilà. et puis voilà, sinon c'est vraiment par hasard le sujet de l'Australie pour la météo, parce que ben, j'avais jamais vraiment voyagé dans ma vie. Et je me suis dit, ben, faire un grand voyage, enfin faire quelque chose que ma famille n'a jamais vraiment fait, ça serait cool. Et voilà, donc je suis arrivé ici par hasard, et c'est vraiment plus de 9 ans que je suis ici.
Comme Tiffaine, pour moi, Christophe, c'est l'amour qui m'a fait venir ici. En Suisse, c'était très sympa, mais australienne, avant tout l'Australie, jouer avec mes garçons, mes enfants, grandissent ici, c'est quand même un beau pays pour grandir. Et moi, je suis un ancien du lycée français de Riyad en Arabie Saoudite, donc j'ai grandi en Arabie Saoudite, et j'ai toujours eu l'habitude un peu de voyager ailleurs aussi. Quoi.
Alors, quelle est votre définition du savoir-faire, Élise?
C'est une question que j'ai toujours aimée, et notamment quand je travaillais chez Hermès, vraiment le savoir-faire, c'était quelque chose de très, très, très important. Et en fait, leur définition, qui est toujours la même, en fait, le savoir-faire, c'est l'excellence de l'artisanat, en fait. Et c'est comme ça qu'ils définissaient même la marque, plutôt que de l'appeler le luxe. Et en fait, savoir-faire, voilà, c'est une accumulation de traditions, d'expérience, d'excellence, d'attention aux détails, en fait. On ne précipite rien, on prend le temps. Et c'est vrai qu'en France, on excelle dans ce domaine-là. Donc, c'est un plaisir de l'exporter.
Alors,
mais je dirais que le savoir-faire, il se repose parfois sur des connaissances qui se sont transmises de génération en génération. Une connaissance approfondie du sujet, vouloir toujours atteindre une qualité supérieure. L'attention aux détails, c'est souvent un travail très lent, parce que ça demande énormément de concentration et d'attention. Et je trouve que ça demande aussi une certaine culture générale pour savoir où puiser aussi d'inspiration.
Je pense que tout a été plus ou moins dit. C'est vrai que c'est plus une accumulation d'expériences, mais de bonnes expériences. Et je pense que c'est important pour construire aussi un savoir-faire, de s'entourer des personnes qui ont des grosses expériences dans des domaines bien précis. Donc c'est ce qui permet justement d'exceller comme cette étude.
Ouais, c'est le savoir-faire français. C'est vrai que dans la mode, dans l'horlogerie, dans la pâtisserie, dans les arts, enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier d'amener ici en Australie.
Artisan, le statut n'a pas d'équivalent en Australie. A-t-il été difficile de faire reconnaître ici vos savoir-faire et vos compétences?
Oui, en effet, je trouve que le mot artisanat ici n'est pas tellement vénéré. On parle plutôt d'entrepreneuriat, donc ça englobe beaucoup de choses, notamment ce côté fait soi-même ou fait avec d'autres artisans qui vous aident à créer une marque. Mais oui, je pense que si on n'est pas français et qu'on grandit qu'en Australie, c'est vrai que l'artisanat, je trouve que c'est pas aussi célébré et défini finalement.
J'ai une question pour vous, monsieur l'ambassadeur. Comment l'ambassade de France soutient-elle l'artisanat français en Australie? Il y a bien une campagne Make it iconic, choose France.
Oui, le premier point, c'est en fait d'abord de faire reconnaître nos métiers d'art et nos savoir-faire. Ce que vous disiez, en fait, c'est qu'il y a vraiment une spécificité des gens qui font très bien leur métier, on en a partout dans le monde. Mais je crois qu'en France, on a réussi à pousser l'excellence jusqu'à en faire un art. Et d'ailleurs, on parle de métier d'art. Et au fond, c'est ça la différence entre la bonne gastronomie et la haute gastronomie. La joaillerie, la haute joaillerie. La capacité à pousser toujours plus loin dans l'excellence de montrer à quel point ces savoir-faire sont aussi universels. Il n'y a pas on a des racines françaises, mais ils peuvent très bien s'exporter. C'est d'ailleurs un secteur qui exporte énormément, c'est plus de 8 milliards d'exportations. Donc c'est un secteur économique à part entière, très fort. Donc il appartient à l'ambassade de soutenir, d'abord, à l'exportation nos artisans qui sont en France et qui veulent découvrir de nouveaux marchés, ce qu'on a fait d'ailleurs dans le métier des industries créatives et de culture avec l'expédition Immersion. On a eu beaucoup de startups, de PME, d'artisans qui sont venus ici pour développer. Et puis ici, c'est de pousser, de faire savoir et de faire connaître. Parce qu'au fond, chacun et chacune ici montre à quel point il réussit dans son activité professionnelle. Nous, ce qui on est là, on est aussi pour pousser en équipe France. L'équipe France doit être unie et elle doit pousser, faire connaître et célébrer les réussites, comme nous tentons de le faire, franco-australiennes. Ici à Sydney comme partout en Australie.
Alors, de quelle manière l'Australie vous inspire-t-elle dans votre travail? Et parlez de vos inspirations.
je m'inspire des oiseaux australiens. Je trouve qu'ils sont tellement beaux et ils représentent pour moi la magie de l'Australie. J'utilise des techniques de peinture botanique pour peindre mes oiseaux, parce que j'aime montrer les détails, les nuances de couleurs, et j'aime agrandir les détails aussi, pour vous montrer ce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de voir. On n'a pas toujours l'opportunité de voir un oiseau de près, voire même on n'a pas toujours l'opportunité de les voir, puisqu'ils sont en voie de disparition. C'est aussi une manière pour moi de garder un lien avec l'Australie, de m'adresser aux Australiens. Et je suis toujours surprise de voir comment ils sont tellement impressionnés de voir mon travail et tellement reconnaissants. Ça me fait vraiment super plaisir.
J'imagine. Moi, ce qui m'inspire, en fait, c'est mon métier. C'est un métier quand même assez artistique, visuel, beaucoup de couleurs, des saveurs, des textures. De nouveau, on a la chance d'avoir de plus en plus de nouvelles technologies. En l'occurrence, les imprimeries 3D. On a la chance d'avoir des personnes qui développent des sociétés pour des moules en silicone personnalisés, par exemple. Donc j'ai récemment, je suis plutôt encore en travail là-dessus, mais j'ai récemment développé avec une société française un moule en forme de l'Opéra House de Sydney.
Ah,
donc j'aimerais bien, alors ce sera plus une balle individuelle, je l'ai aussi en mini. J'ai pas encore le temps vraiment de peaufiner le, on va dire plutôt l'intérieur, en tout cas le visuel est très ressemblant, c'est un visuel 3D.
Mm.
Donc voilà, je vois encore pas mal de petites finitions à faire, mais moi ce qui m'inspire c'est vraiment les formes. Et en fait, représenter un peu le savoir-faire français, mais à travers des formes et des. En reproduisant des monuments, par exemple, d'Australie ou d'autres choses. En fait. Mm.
Tout ça, votre manière, vous inspirer de l'Australie ou employer des matériaux australiens, vous appuyant sur des compétences acquises en France. L'Australie vous a-t-elle rendu plus créatif, peut-être?
Oui, moi je dirais tout à fait, parce qu'en fait, ne serait-ce que d'arriver ici, les gens ne comprennent pas vos références, soit quelle université vous avez faite, quel diplôme vous avez en mode. Donc en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je reparte complètement à zéro. Et ça m'a forcée à me redéfinir, en fait, de garder le meilleur, de me débarrasser de ce que je n'aimais pas de moi en France. Donc, je trouve que je me suis affinée. Et puis, il y a cet esprit tellement heureux ici qui correspond à ce que j'étais. Et je trouvais que c'était en dissonance un petit peu en France, surtout à Paris, je dois dire, dans le sud, ça allait. Et donc, vraiment, oui, l'Australie m'a aidée à me redécouvrir, en fait, et à me réinventer avec beaucoup d'humilité. Cette journée intérieure, je dois dire qu'elle a été extraordinaire. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir fait sauter sur l'aventure.
Oui, c'est beau. Comment réagissent les Australiens à vos créations? Est-ce que vous vous adaptez à la demande locale?
J'utilise des imprimantes qui ont des encres pigmentaires et les papiers les papiers qualité musée, des papiers français. Voilà, c'est ce qui me permet de représenter au mieux l'original. Et je trouve que les Australiens reconnaissent tout de suite la qualité du papier, la qualité du travail, les couleurs, la manière dont c'est présenté. Je fais souvent des portraits d'oiseaux, puisque j'ai fait de la photo autrefois, j'habite à l'étranger pendant 30 ans. Non, je trouve qu'ils voient bien que je propose un produit différent et je le trouve super reconnaissant et super enthousiaste. Ça me fait vraiment plaisir.
Ouais, c'est clairement mes supporters numéro un pour quasiment toutes les montres, aux États-Unis et en Europe, mais les clients australiens, ça reste les premiers clients. Le fait d'avoir un petit accent français que je cultive, parce qu'il faut, tous les jours le travailler, cet accent français, ça ajoute et ça fait sens, marque de montre. On pense plus à quelqu'un qui a un accent un peu francophone. Ça fait tout de suite un peu plus. On peut justifier $2,000 de plus.
Oui. Voilà. Pourquoi pas 5 000?
Voilà.
Alors, monsieur l'ambassadeur, la France et son savoir-faire sont souvent résumés en Australie à la gastronomie et à l'univers de la mode et des cosmétiques, peut-être. Est-ce difficile de porter le regard des Australiens au-delà de ces clichés?
Alors, il faut d'abord accueillir avec plaisir le fait qu'on nous reconnaisse pour la haute gastronomie. On aime ça, on aime faire des campagnes au bout de France. Et puis, au-delà de la gastronomie, c'est surtout de montrer à quel point, même quand on est sur la gastronomie, on a des métiers d'art vivants. Moi, je pense que c'est qui se diversifie. On voit autour de cette table des jeunes, il y a des femmes, on se renouvelle. La France a un énorme patrimoine, mais on continue quand même de se développer, de s'inventer tous les jours. Après, sur les autres aspects, je pense que on nous reconnaît aussi ce savoir-faire. On l'a vu autour de Notre-Dame, en fait, que là, du coup, il y a des charpentiers, on est bon en ferronnerie, on est bon sur le vitraux. Il y a des métiers partout. Et on essaye de faire partager aussi à nos amis australiens les politiques qu'on a mises en œuvre. De reconnaître avec les entreprises le label du patrimoine vivant, de reconnaître qu'est un métier d'art. Nous, on le définit par la loi, bien tout bien défini française, mais c'est pas rien non plus, en fait, de dire que pour que développer et reconnaître, il faut aussi célébrer, identifier, labelliser, et puis on tente aussi de monter des coopérations aussi pour aider les Australiens dans les filières techniques qui les intéressent, à faire partager notre expérience. C'est vrai, j'allais dire, dans du fromage, puisque on discute aussi de comment nos filières laitières, il y a beaucoup de lait ici, il y a des choses à faire, c'est vrai dans tous les domaines, et j'ai accompagné cette année la délégation d'une compétition qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle les World Skills, qui, en gros, l'ensemble des métiers professionnels, des TAF en Australie, c'est 62 métiers, des jeunes, une pêche pas possible, des milliers de participants partout le monde, et vous allez là, c'était à Lyon cette année, les mondiaux, et franchement, quand vous avez cette ambiance, que ça soit de l'ingénierie 3D, de la cybersécurité, de la gastronomie, de la couture, du beauty, du care, etc., vous voyez à quel point, en fait, bah, transmettre ces métiers artisanaux, ces métiers d'exception qui reposent sur des gestes, qui reposent aussi sur le geste, ça va aussi avec le cerveau, c'est les deux ensemble. Et bah, franchement, il y avait 100 000 jeunes qui sont venus les voir. Je me suis dit, c'est 100 000 nouvelles vocations. Mmh. Et plus on montrera en France comme en Australie que c'est super les business schools, mais aussi il y a plein de métiers dans lesquels non seulement on peut bien gagner sa vie, mais on peut tellement bien s'éclater dans ce qu'on fait qu'il ne faut jamais renoncer à ses premières envies et faire découvrir aux plus jeunes. Ça, c'est mon ambition.
Quel est l'aspect le plus gratifiant de la pratique de votre artisanat ici en Australie? Est-ce que c'était une fierté pour vous? J'imagine que oui.
Pour moi, ce qui est gratifiant dans le métier, c'est plus la création d'émotion. Quand les gens ils reviennent et ils disent que c'est bon, alors forcément, on achète avec les yeux, comme on dit, quand c'est beau. Mais ce qui est gratifiant, c'est quand les gens reviennent parce que c'est bon. Ça, c'est vraiment un grand plaisir pour moi.
Oui, j'imagine.
Moi, je dois ajouter qu'en fait, il y a un énorme présupposé positif en Australie quand on est français. Et je me suis rendu compte quand même en m'exportant. Pardon. Si j'étais restée en France, je pense que j'aurais cru que c'était une légende. Mais en fait, en étant ici, c'est là qu'on comprend l'impact et l'aura en fait, française dans le monde entier qui est justifiée. Mmh. Et donc, partout où je vais, dans toutes les étapes de ma vie personnelle ou professionnelle, être française, ça a toujours été un passeport fabuleux. Donc, je suis hyper, hyper fière. Mais oui, ouais, un passeport oui. Fabuleux. Et une fois que je suis en France et que je dis que j'habite en Australie, j'ai le même accueil extraordinaire. Donc, il y a vraiment cet amour mutuel, je pense, entre les deux pays. Et donc, c'est vraiment... On a de la chance d'avoir un pied dans chaque... je dirais.
Alors, bon, bah, et selon vous, c'est une dernière question. Selon vous, où réside la beauté des créations hybrides franco-australiennes?
Pour moi, c'est l'océan. Venant de Mulhouse, voilà, l'océan, tous les matins, je nage dans l'océan, mes créations sont liées à l'océan, la beauté des Northern Beaches, mais ailleurs aussi, partout en Australie. Pour moi, c'est ça.
D'accord. Pour moi, c'est la joie de vivre et l'enthousiasme. Je trouve que c'est quelque chose qu'il y a en Australie et qui nous aide à faire passer nos messages français, en fait. C'est la beauté. Elle est là.
Moi, ouais, c'est toutes les couleurs. Donc, les couleurs de l'océan, les couleurs des oiseaux et les couleurs du bush australien. C'est une source infinie d'inspiration pour moi et qui me fait vibrer.
Et pour moi, c'est vraiment les paysages. Je dirais que chaque quartier est très différent. Je dis toujours un peu Sydney, c'est un peu comme Paris, mais en plus éclaté. En fait, chaque quartier a vraiment son identité. Donc, ça fait vraiment plaisir. On a l'impression qu'on voyage en fait dans Sydney, alors qu'en fait, on est dans la même ville. Donc, c'est vraiment top.
Ah ben, merci d'avoir partagé ces perspectives très intéressantes. J'ai apprécié de vous entendre raconter vos expériences personnelles. Un grand merci pour le temps que vous avez consacré à cet échange et merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Je vous rappelle que tous les artisans que vous venez d'entendre ont évidemment une présence en ligne, qu'il s'agisse d'un site web ou d'un compte Instagram. Et donc, si vous souhaitez en savoir davantage à leur sujet, eh bien, n'hésitez pas à les suivre et même à les contacter. Est-ce que vous voulez partager vos Instagram, handles, vos sites web pour nos auditeurs?
Donc, oui, vous pouvez voir mes peintures sur ma page Instagram. C'est Tiffany avec IE, donc TIFFANIE.vidal sur Instagram. Et ma page internet qui est TiffanyVidal.com.
Pour moi, tout simplement, Maison Balzac, comme l'écrivain, .com pour le site web et puis Maison Balzac, tout court, pour l'Instagram.
L'Instagram de la pâtisserie, c'est collection, donc il n'y a pas de C, c'est un Q, comme Quentin, à la place du C. Donc collection-pâtisserie, donc là, c'est vraiment pour la boutique. Et mon Instagram personnel, c'est Z Quentin, parce que mon famille, c'est Zer, donc Z Quentin. Mmh. Et le site internet, c'est collection-pâtisserie.com.u.
Et Bausel, P-A-U-S-E-L-E.
Merci beaucoup, merci à tous, très bonne journée à tous et à très bientôt.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci.